podcast des voyages ordinaires. Roman.
Monsieur Michaud descendait rêveusement la rue Saint-Honoré, essayant de se souvenir où retrouver la ligne 2 du métropolitain pour atteindre la porte Dauphine. Ne restait plus qu'à s'acheminer jusqu'à la place de l'Étoile, se dit-il. Supervielle l'attendrait un peu. Quelle idée, le boulevard Lannes. C'est toujours un trajet d'aller le voir, mon vieux. Les beaux quartiers, les belles avenues, ça n'arrête pas. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Monsieur Michaud, au début de l'été 1936, on va l'imaginer comme un homme sans visage, mais avec un chapeau, et qui marche sur le trottoir en regardant de loin les sorcelleries du monde autour de lui. Il dépasse maintenant l'emplacement du Café Cousin, un café qui avait servi à ses clients au cours du siège de 1870 pour le déjeuner de Noël, de la tête d'âne farcie, du consommé d'éléphant, des goujons frits, du rôti de chameau, du civet de kangourou, des côtes d'ours sauce poivrade, un cuisseau de loup sauce chevreuil, du chat flanqué de rat et de la terrine d'antilope. Ou alors, Monsieur Michaud, au début de l'été 1936, on l'imagine avec son visage de chef indien, mais avec un chapeau, une cravate désignant le cou comme une flèche noire sur la chemise blanche et la veste à l'épaule, car il fait chaud. On l'imagine comme un homme engoncé, volontairement engoncé dans la foule, mais effervescent de l'intérieur. Il se dirige maintenant vers les jardins des Champs-Élysées. Avec Supervielle, ils vont bientôt prendre un paquebot pour l'Argentine. Une intervention pour le 14e Pen Club de la tradition vénérable des conciles d'écrivains. Ils sont tous les deux invités. Je vous raconterai peut-être. Michaud pense à son discours. Le poète médecin, exorciste, le poète qui fait disparaître les envoûtements de l'époque précédente. Voilà le poète. Tu peux être tranquille, il reste du limpide en toi. En une seule vie, tu n'as pas pu tout souiller. Et il s'amusa à redevenir guépard sous les arbres et les taches de soleil du carré le doyen. Il y a une sorte de fausse dignité dans la posture des fleurs de narcisse. La tige, très droite, mais creuse, comme celle des jonquilles auxquelles elle s'apparente, porte assez haut, au milieu de ses feuilles affilées qui la protègent dès la base, une fleur blanche ou jaune, dont une couronne de 6 pétales protège le cœur en forme de coupe ou de pavillon de trompette. Ou peut-être faut-il dire non une couronne, qui supposerait une fleur raide comme une tulipe, non même une corolle, sa désignation scientifique, ou même, pour faire image, une collerette, mais dans son cas, un scapulaire, une capuche ouverte sur une tête recourbée, presque somnolente, puisque souvent l'ensemble de la fleur penche, s'incline non seulement de par son poids au bout de la tige, mais comme par une sorte de volonté délibérée, d'humilité feinte, vers un point d'eau proche, raison par laquelle Narcisse, se penchant sur son reflet, n'a pas simplement donné son nom à la plante, mais s'y est vu transformer, transférant dans sa métamorphose une part de sa naïveté de caractère, de fixité toxique et de refus virginal de reproduction sexuelle. De fait, le cœur de la fleur n'appelle aucun insecte et ne participe que marginalement au renouvellement des générations. Ce cœur n'est que le rêve du bulbe enterré qui se sort très bien tout seul des bourgeons souterrains qui le travaillent au printemps, lui permettant, en disparaissant, de faire plusieurs à partir d'un seul et de voir fleurir au même endroit, chaque année, ces mêmes rêves embaumés, jaunes ou blancs, qui signalent à tous son existence et rappellent, pour chacun, au-dessus du sol, ses nonchalants désirs de beauté. Finalement, voilà comment ça procède. Je compile mon cabinet de curiosités, miscellanée d'épisodes et de faits divers, tissus de pièces et de noms oubliés et centons d'impressions qui n'appartiennent qu'à moi. Et je jauge à la relecture combien et comment résonnent les juxtapositions et si les harmoniques sont plus ou moins bien appuyées, plus ou moins écartées ou contradictoires. Il m'arrive de réarranger les passages, mais assez rarement. Le hasard de leur arrivée, comme l'apparition d'une silhouette connue dans une foule descendant d'un train, semble être le plaisir recherché. J'attends que quelque chose fasse signe, fragment après fragment, dans l'aléatoire de mes rêveries mêmes. Puis, le sens à nouveau disparaît.
Des romans fragmentaires qui explorent des mondes.